tout à fait, c'est le réseau Internet.
Alors, le Minitel, vous voyez ce que c'est?
Oui, c'est quoi Internet exactement?
Le Minitel.
C'est pareil, sauf que c'est mondial. Voilà. Alors, c'est le réseau de tous les réseaux. Vous branchez sur Internet et vous pouvez communiquer avec tous les ordinateurs du monde.
Mais vous branchez, comment il faut faire pour se brancher?
Alors, pour se brancher, c'est facile.
C'est payant, donc.
On se calme. Il faut un ordinateur.
Ouais.
Un ordinateur, un PC ou un Mac. Il faut un modem. Un modem, c'est une petite boîte.
Genre de téléphone.
Ça coûte cher, un modem, hein, déjà.
Ça coûte 1500 ou 2000 francs d'occasion.
Mais quel plaisir. Hein.
Oui,
c'est une petite boîte qui permet de communiquer avec les autres ordinateurs. Il faut une ligne téléphonique, ça, tout le monde en a. Il faut évidemment un abonnement.
Combien d'abonnés aujourd'hui?
Dans le monde, 40 millions de connectés.
Ah ouais.
40 millions de personnes. C'est-à-dire vous pouvez poser une question sur Internet, vous pouvez poser une même question à 40 millions de connectés.
On était alors en 1994, la découverte de ce qui fait notre monde aujourd'hui dans l'actualité, des idées numériques, le comprendre pour ne pas le subir. Car si nous fabriquons la technologie, elle nous fabrique aussi. D'où l'idée de Dominique Cardon de rédiger un ouvrage de synthèse pour décoder ce que les écrans font à nos sociétés. Grande voix du digital, professeur de sociologie à Sciences Po, où il dirige le Media Lab, membre du comité de rédaction de la revue Réseau, auteur déjà de La démocratie Internet ou encore de À quoi rêvent les algorithmes au seuil. Dominique Cardon publie aujourd'hui un livre nourri de références et très pédagogique, où il retrace à la fois l'histoire du web, de la naissance de l'informatique à aujourd'hui, ses enjeux économiques comme démocratiques et ses ambiguïtés. Culture numérique, c'est son titre, paraît aux presses de Sciences Po. Dominique Cardon, bonjour.
Bonjour.
Le 3WWW, le World Wide Web à 30 ans, un système de partage d'informations imaginé par le physicien britannique Tim Berners-Lee. Partage et gestion décentralisée de l'information, ça c'était l'idée géniale de départ. Est-ce que vous avez, vous, allumé une bougie hier pour fêter ça?
Mais je pense que c'est un événement important. Alors c'est un événement important qu'il faut remettre dans un contexte historique, parce qu'on confond souvent le web et Internet. Internet est né dans les années 70-80, et le web, lui, a 30 ans. Et le web, c'est la partie d'interface où on navigue de lien en lien sur des pages du web. Et ça, c'est Tim Berners-Lee. Et c'est né en Europe, on l'oublie, c'est né au CERN. Tim Berners-Lee et Robert Caillot ont proposé, il y a 30 ans, un petit mémorandum au directeur du CERN, puisqu'il travaillait au CERN, qui a mis un an à voir l'enjeu de cette affaire, et puis en 1990 ça va véritablement se développer, et le web est l'aventure qu'on connaît, qui aujourd'hui a dépassé les plusieurs milliards d'utilisateurs par rapport aux 40 millions évoqué par Bernard Rapp.
Alors, je reviens au début des années 90 avec une autre archive qu'on voulait vous faire partager. On va voir toute cette promesse au début des années 90, surtout l'idée qu'on aura accès à tout, à toute la connaissance.
Mettre à disposition le savoir du monde. Voici les rayonnages de la plus prestigieuse des bibliothèques, celle du Congrès américain. Pour consulter ces milliers de documents, pas besoin de se déplacer à Washington, car tout a été transféré sur informatique. Et de Paris, par exemple, avec une console, une ligne téléphonique et un mot de passe, vous entrez dans l'univers d'Internet. Un petit clic, le catalogue est en anglais, c'est la liste des 40 000 banques de données consultables. Un nouveau clic, quelques secondes d'attente et la bibliothèque du Congrès américain est à vous. Science, histoire, culture, tout y est ou y sera. Internet, c'est donc une vaste caverne de la connaissance. On peut y faire du tourisme virtuel. Visiter le Kremlin à Moscou, par exemple, et voir The Red Square, la place rouge. Petit détour par Atlanta et son musée. Toute l'étoile sur votre écran. Repasser la frontière et voir cette fois la collection du musée de Saint-Pétersbourg. De Houston, tout savoir sur les missions Apollo. Ou encore de Californie, les revues les plus branchées s'affichent sur le réseau.
Alors 1996, deux ans après cette émission de la Marche du siècle, on revisite aussi notre patrimoine audiovisuel avec vous, Dominique Cardon. 96, c'est l'année où le web va commencer son développement public. On l'entend là, c'est vraiment une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur le monde. C'est un voyage presque impossible jusqu'ici, avec une ouverture du champ des possibles. Est-ce que le numérique a vraiment augmenté la culture, la connaissance et le pouvoir d'action de chacun?
Alors, l'information, c'est pas de la connaissance. Ce que nous offre cette nouvelle technologie, dont l'aventure est quand même assez formidable, c'est-à-dire que de partir d'une histoire de militaires et de chercheurs qui avaient inventé un réseau de communication, puis d'en faire quelque chose pour tous, de le démocratiser, et du coup de donner accès à ces informations qui là étaient très lettrées, de connaissances, de musées, etc., mais qui sont devenues aujourd'hui des connaissances sur à peu près tout et n'importe quoi, même si on n'a pas tout et n'importe quoi sur Internet, mais on a...
Tout et n'importe quoi, le pire et le meilleur.
Et le pire et le meilleur, ben ça c'est l'aventure de l'information disponible. Est-ce que nous, internautes, faisons le meilleur usage de l'information qui est disponible? Ça, c'est aussi une des grandes questions pour laquelle il me semble important d'avoir une culture numérique, parce que beaucoup de choses sont là, disponibles, mais peut-être que notre attention, et pour plein de raisons, est focalisé et concentré sur un certain type de contenu, alors que si on ouvrait un tout petit peu les portes et les tiroirs de l'Internet, on découvrirait des choses passionnantes que l'on ne va pas forcément chercher. Et j'ajoute que les plateformes avec leurs algorithmes ne nous aident pas à découvrir ou à chercher.
C'est ce que vous dites, en fait, ce sont les usages et les usagers qui font Internet, qui font aussi le web et cet échange de connaissances qui peut s'y produire. C'est nous qui, finalement, construisons et peuplons ce territoire.
Ben voilà, c'est une des spécificités. C'est pour ça que moi, je pense que la question de la culture numérique est essentielle. C'est que le web et Internet, c'est un média qui est différent de la radio et de la télévision. C'est un média dans lequel l'utilisateur doit être actif. Et ça pose des problèmes, parce que tout le monde n'a pas la même capacité à être actif que tout le monde. Mais c'est un système de réciprocité. Je lis et j'écris. Je pose une question et je réponds à une question. Et cette idée qu'il faut participer à la fabrication des usages et des outils est très importante dans la culture numérique. Et évidemment, on voit bien qu'un des enjeux, 30 ans après la naissance du web, c'est qu'il y a des asymétries incroyables qui se sont faites, que de plus en plus, nous sommes des utilisateurs un peu silencieux, pas si actifs que ça, et que les plateformes nous guident, nous orientent et conduisent nos pratiques. Et donc, il y a une asymétrie qui s'est faite dans l'idée de la réciprocité initiale qui est propre à la culture numérique.
Parce que quoi? Parce que débordé par la technologie, par un savoir-faire qui nous semble trop complexe.
Là, il faudrait engager plein de d'explications. Il y a d'abord une explication sociologique. Les pionniers de l'Internet étaient des hommes blancs, masculins, américains, très diplômés. Et donc, ils avaient une facilité dans l'échange et dans la communication qui créait cette système de réciprocité et de production curieuse de façon extrêmement forte.
L'aristocratie des compétents.
Une aristocratie des compétents et une tyrannie de l'activité. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut être actif. Si on est passif, ben on est juste en train de regarder les images qui nous sont proposées ou le fil d'actualité qui déroule dans notre réseau social. Si on n'est pas engagé, il y a quelque chose qu'on perd de l'expérience du numérique. Et l'idée de la culture numérique, c'est d'essayer de redonner un peu de pouvoir, comme ça, à l'utilisateur, pour qu'il s'empare aussi de ces technologies, pour ne pas les regarder de façon trop passive dans les services qui lui sont proposés.
Alors, vous donnez une définition de cette culture numérique. Vous dites que la culture numérique telle que vous l'entendez dans ce livre qui porte ce titre est la somme des conséquences qu'exerce sur nos sociétés la généralisation des techniques de l'informatique. Parce que le numérique est certes une technologie, mais c'est d'abord pour vous une culture et c'est celle que vous nous racontez, ces enjeux politiques, démocratique, économique, mais d'abord aussi son histoire. Alors si on fait un petit retour aux origines, dans quel état d'esprit a été créé Internet, Dominique Cardon?
Ah, c'est une histoire très compliquée parce que Internet est né de financements militaires très forts, en pleine guerre froide. L'État américain voulait rattraper les Russes qui étaient en train d'envoyer dans l'espace Sputnik. Et ils ont décidé de financer un système de communication assez original, distribué en réseau, et qui va devenir Internet. Mais très très rapidement, dans l'histoire d'Internet, de ses premiers usagers, va se greffer sur ce nouveau réseau, et puis cet ordinateur qui va devenir un ordinateur personnel dans les années 70 et dans les années 80, l'idée de la contre-culture, et l'idée d'une culture qui est plutôt libertaire, qui est plutôt participative, qui est orientée vers les valeurs de la communauté, qui est une sorte d'individualisme augmenté par l'ordinateur pour pouvoir faire réseau avec la société. Donc c'est pas un individualisme solitaire, c'est un individualisme qui essaye de faire communauté, mais qui a en revanche une sorte de méfiance à l'égard, à l'époque, du marché et aussi de l'État pour dire bah finalement c'est la société civile qui se connecte, c'est la société civile qui accède aux informations, c'est elle qui produit des services, c'est elle qui définit les règles d'usage des communautés, et ça va fabriquer des valeurs qui vont façonner une culture numérique qui va être fortement impliquée dans Wikipédia, dans le logiciel libre et dans beaucoup de communautés qui vont aussi réguler les instances techniques de l'Internet.
Avec notamment l'idée d'autonomie de l'individu.
Avec ça, une idée d'autonomie de l'individu et une sorte d'autonomie aussi des fameuses communautés qui définissent pour elles-mêmes leurs propres règles de fonctionnement. Ce qui, on le voit aujourd'hui, bien après, ne cesse de poser des problèmes quand des États cherchent à dire aux infrastructures techniques de l'Internet qu'il y a un certain nombre de choses qu'elles devraient réformer, réguler ou auxquelles elles devraient être attentives alors qu'elles ne l'ont pas toujours été.
Autre maître mot, celui de coopération, Internet est un outil coopératif, on le disait, façonné par les usages de tous, de manière aussi coopérative. Donc ça c'est un des mots importants. Internet a quand même été fabriqué en logiciel libre. Qu'est-ce que cette liberté impliquait ?
Mais le logiciel libre, c'est une des inventions importantes de la culture numérique. C'est véritablement l'idée que les programmes sont ouverts. Hein, face, et à l'époque, c'était Microsoft qui était l'ennemi, on pourrait dire, parce que ces programmes étaient fermés et développés par un certain nombre de développeurs salariés de l'entreprise Microsoft. Ce qu'a inventé la communauté du logiciel libre, c'est de dire, en fait, tout le monde peut contribuer. Alors évidemment, tout le monde ne contribue pas, en réalité. Et il y a une très forte hiérarchie des méritants à l'intérieur de ces communautés. Mais c'est l'idée que on peut transformer, amender et partager des développements du logiciel avec d'autres, et que du coup on produit quelque chose qui va devenir très central dans le monde des cultures numériques, l'idée de l'ouverture et de la transparence. Hein. On partage avec les autres, et ces partages va être celui des photographies, va être celui du savoir, va être celui des connaissances, va être celui qui était très fort dans la culture numérique aussi, d'une hostilité aux droits de propriété intellectuelle qui empêche ou qui limite ou qui contient la possibilité d'échanger et de partager des contenus qui ont été pris, remixés, transformés par les internautes.
Ça, c'était le rêve des pionniers qui a largement aussi cette philosophie imprégnée les débuts de la Silicon Valley. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais un saut dans le temps, mais pour vous, cette notion de bien commun, Dominique Cardon, elle s'est perdue ? Est-ce qu'elle a été dévoyée ?
Alors, ce qui est très compliqué dans l'évolution d'Internet, c'est qu'on est parti d'un petit monde, puis ce monde est devenu notre monde, notre quotidien, le plus ordinaire, etc. Et donc, dans cet effet de massification, évidemment, le pouvoir des entreprises et des États sur le réseau s'est considérablement accru, a créé les asymétries dans l'usage que j'évoquais tout à l'heure. Et on peut avoir un peu le sentiment qu'ont certains, des pionniers justement, un peu nostalgiques, mais alors c'est toujours la même chose, que quelque chose a été perdu. Alors moi, l'idée de faire cet ouvrage transversal sur la culture numérique, c'est de dire non, c'est pas perdu. Voilà. Simplement, on est dans un effet d'écrasement extrêmement puissant du fait même de la présence très forte du marché et des fameux GAFA et des plateformes qui dominent la plupart des services que nous utilisons. Mais ça veut toujours dire, et c'est le petit message sous-jacent de l'ouvrage, qu'on peut très bien ne pas les utiliser, qu'on peut aller ailleurs, qu'on peut être plus curieux que ce qu'ils nous proposent.
Bon, ça, c'était aussi un des rêves de départ. Le prophète, comme vous le qualifiez, l'initiateur du mouvement du logiciel libre, Richard Stallman, fondateur du projet de la licence publique générale GNU. Comment vous dites ? C'est quoi ?
GNU,
c'est les initiales
GNU.
De quoi ?
GNU, alors c'était, vous savez, les blagues d'informaticiens, c'est très compliqué parce qu'en fait c'est un logiciel.
Mais on les partage pas tous. Hein, mais
oui, c'est un programme qui rend libre un programme qui était devenu propriétaire et qui s'appelait Unix. Et donc GNU, ça veut dire GNU is not Unix. Donc c'est un terme récursif, blague d'informaticien un petit peu codé.
Et Linux dans tout ça ?
Et Linux est venu après, c'est un programme qui a été développé par un Finlandais qui s'appelle Linus Torvald et qui a lancé, depuis, et c'est toujours très fascinant, c'est-à-dire qu'il codait dans son coin, et puis il a dit, j'ai développé un petit truc, est-ce que vous voulez m'aider à continuer le développement de cette affaire ? Je sais pas, c'est peut-être pas une grande affaire, mais on va voir. Et puis tout d'un coup, il y a d'autres personnes qui se sont greffées, qui sont mis à participer au développement de ce programme. Et Linux est aujourd'hui devenu l'un des, ce qu'on appelle, operating system de la plupart des grands calculateurs du web et d'une petite communauté importante qui utilise ce logiciel libre.
Logiciel alternatif au gros système d'exploitation aussi ?
Alternatif au gros système d'exploitation. Et il faut le dire aujourd'hui, parce que Linux maintenant a connu un succès énorme, dès qu'un calculateur ou un ordinateur doit faire des opérations très compliquées sur quelque chose qui n'est pas votre ordinateur personnel ou votre téléphone, il est sous Linux parce que le logiciel libre est aussi plus fiable que le logiciel propriétaire.
Alors le prophète Richard Stallman en est-il revenu de ce rêve du logiciel libre ? Voilà ce qu'il disait en 2016.
J'ai décidé de porter la liberté aux utilisateurs de l'informatique. Le but est d'éliminer le logiciel pas libre et de le remplacer par du logiciel libre pour que tous les utilisateurs de l'informatique soient libres dans leur informatique, pour qu'ils aient le contrôle de leur informatique. Le logiciel privateur ne doit pas exister. J'ai vu un futur de logiciel injuste, un futur complètement laid, un futur de rien. Ce que j'ai fait est grand, mais ce qu'il faut faire est beaucoup plus grand. Donc je ne suis pas satisfait quand je considère les travaux à faire.
Il avait prophétisé le moche à travers le logiciel non libre. Aujourd'hui, il dit que ce qu'il a fait, c'était tout petit et qu'il aurait dû viser ou continuer à viser beaucoup plus grand. Richard Stallman, quand il l'évoquait il y a 3 ans, cette question-là, le logiciel libre a eu un succès énorme. C'est devenu la référence. Mais là encore, est-ce que dévoiement il y a eu pour vous, Dominique Cardon, récupération, ou est-ce que c'est ce mouvement du logiciel libre qui a aussi montré ses limites?
Alors, bon... C'est un mouvement qui, d'une certaine manière, a ses limites au sens où il faut des compétences techniques importantes pour bénéficier de cette chose formidable et très importante que mentionne Richard Stallman, qui est la liberté de l'utilisateur. Mais en même temps, moi, ce que je crois, c'est moi j'ai une vision plus d'une démocratie plus complète de l'internet, c'est-à-dire que on peut demander au logiciel d'être plus libre et il le faudrait, hein, à l'évidence. Il y a des menaces nombreuses sur ces questions, mais c'est aussi la liberté de l'usage, de l'utilisateur, de ne pas être contraint par des interfaces, de connaître la destination des données qu'on donne aux plateformes, d'avoir une sorte de réflexivité plus grande par rapport à ces pratiques, d'être plus malin et plus curieux, et d'éviter de se laisser guider, parce que ce que dit Richard Stallman quand il voit la liberté du codeur disparaître, c'est aussi cette idée d'une asymétrie, hein. Et c'est que finalement Internet est né dans l'idée que c'est assez symétrique, mais que tout d'un coup il y a des forces qui deviennent si importantes que notre réflexe d'utilisateur, et là je le dis de façon un peu naïve, mais notre responsabilité d'utilisateur, c'est d'être aussi curieux que les potentialités que nous offrent aujourd'hui ces technologies. On peut toujours être curieux, on peut toujours exprimer cette liberté. Mais bon, les réseaux sociaux nous font défiler le fil d'actualité, et puis on regarde, et puis on devient un petit peu idiot à regarder toute une série de choses qui ne sont pas nécessairement les choses qui nous intéressent, alors qu'à 2 clics, il y aurait des choses qui pourraient nous passionner. Donc il y a aussi, dans la culture numérique, quelque chose qui doit renvoyer au couple que forment la société des utilisateurs et les technologies qui sont présentes, pour que nous ne soyons pas trop passifs à leur égard, et c'est pour ça qu'il faut une culture numérique.
D'où l'enjeu de la connaissance, et vous le dites aussi, l'enjeu de marcher sur ses 2 pieds, c'est-à-dire à la fois savoir coder et savoir décoder les enjeux de cet univers-là. Juste, vous évoquiez tout à l'heure ce grand monde dans lequel nous naviguons aujourd'hui, ce grand monde du numérique. Est-ce qu'on peut le cartographier, cet écosystème numérique? C'est un territoire qui nous semble tellement vaste aujourd'hui qu'on ne sait pas vraiment comment l'aborder. Si vous étiez, vous, le guide d'une visite organisée, vous commenceriez par où?
Alors, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est-à-dire de faire une grande traversée du numérique, hein, qui prend l'histoire, la sociologie, la culture, la sociabilité, la politique, les technologies, de le traverser. Mais en fait, le numérique n'a plus de cartographie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une culture numérique. C'est bien de se dire que cette chose qui était un peu spécifique, aujourd'hui, c'est notre monde. C'est les déplacements, c'est l'économie, c'est les relations sociales, c'est les rencontres amoureuses, c'est la navigation GPS pour nous guider vers tel ou tel chemin, c'est les choses qu'on envoie sur les messageries à tout instant de la journée. Donc en fait, le numérique, il s'est incorporé dans notre société, et d'une certaine manière, la carte et le territoire, là, se sont confondus. Et c'est pour ça que avoir des éléments de cette... interprétation de ce qui s'est joué avec le numérique et de la manière dont ça déplace, ça modifie, ça transforme, ça nous anime, ça nous excite, ça nous ennuie, ça nous gêne, permet d'être plus réflexif à l'égard de cette présence quotidienne du numérique.
Invité jusqu'à 13h30, le sociologue Dominique Cardon à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage Culture numérique, c'est aux presses de Sciences Po. Il est 13h15 sur France Culture.
France Culture. La Grande Table, Olivia Jesbert.
Pour décoder, il faut connaître l'histoire, mais pour avancer, il faut aussi savoir où tout cela nous mène, jusqu'où mèneront les technologies numériques, c'est l'autre grande question. Et pour tenter de l'aborder, on a beaucoup tendance à se fier ou à se saisir de la fiction. Sur le système de notation en ligne, je vous propose un extrait de la série qui fait frissonner, ouais, j'en perds mes mots, Black Mirror. C'est vraiment une série qui envisage notre monde à travers une technologie dystopique. Extrait.
Si on regarde en détail la courbe de vos chiffres, vous jouissez d'une belle notoriété, avec une évolution forte. Voyons vos dernières 24 heures. Vous voyez, même si... Dites donc, 8h40, bravo, vous travaillez dur sur vos relations. Très joli pic de notes maximales.
Oui.
Un ou deux flops aussi, vous avez eu un petit accrochage avec quelqu'un?
Oh, rien qu'un couac au boulot, rien de grave.
D'accord. On va vérifier votre sphère d'influence, si vous le voulez bien. Très beau cercle extrinsèque. Des inconnus vous suivent, c'est un plus. Votre cercle privé est plutôt sain. C'est une bonne chose.
Merci beaucoup.
On est loin du compte. Mais 4.5 est tout à fait envisageable.
Et d'après vous, ce serait long?
Pour atteindre cette note? Oh, mis à part un renversement de situation provoqué par une éventuelle humiliation publique, je dirais 18 mois environ.
C'est ça l'avenir que le numérique nous réserve pour vous, Dominique Cardon?
Je crois pas. Je crois pas, même si évidemment il faut y être très très attentif. Mais alors c'est un des autres problèmes du numérique, c'est qu'il suscite le fantasme. Hein, et le fantasme est soit le fantasme d'une promesse, ça va changer, ça va révolutionner, ça va démocratiser, soit des sortes de dystopies qui sont des dystopies issues de la science-fiction. J'adore la science-fiction, mais elle est assez mauvaise conseillère sur les usages. Alors là, sur les histoires de réputation, on se fait... Et on a raison d'être très vigilant sur ces questions. Et c'est vrai qu'on est entré dans un système où nous notons régulièrement. Mais l'idée de cette série, qu'on aurait une note globale qui serait la somme de nos réputations, est sociologiquement infondée, parce que nos réputations, elles sont liées à celui qui nous note. Et il y a des contextes très différents. Je peux avoir une bonne réputation, par exemple, dans le milieu académique, mais elle est absolument nulle en ping-pong ou en football. Si j'agrège toutes ces notes, comment essayer de le faire beaucoup de services, du web d'ailleurs dans les années 2010, pour en faire une note globale des individus? On agrège en fait des carottes et des choux, ça ne veut pas dire grand-chose. Les services qu'il avait proposés ont mis la clé sous la porte. Alors, je prends cet exemple parce que il est au cœur de beaucoup des débats sur le numérique. La culture numérique, c'est aussi ne pas se laisser prendre par tous les discours ambiants des prophètes et des Cassandres. Et on le voit là beaucoup sur l'intelligence artificielle qui est en train de nous annoncer le meilleur avenir ou le pire. Hein. La réalité, c'est qu'il faut aussi creuser un tout petit peu ces technologies, être plus curieux, de voir quelle est leur histoire, de comprendre qu'est-ce qu'elles font très bien, mais qu'est-ce qu'elles ne savent pas vraiment faire, mais que des gens vendent comme la possibilité de changer beaucoup de choses. Et du coup, ça permet d'avoir un regard plus réflexif, critique et distant à l'égard de tout ce qu'on entend sur les avenirs technologiques.
Mais c'est aussi un miroir grossissant qui nous fait réfléchir à nos usages. Et vous n'avez cessé de le dire déjà depuis une vingtaine de minutes, Dominique Cardon. C'est nous qui faisons le web et Internet aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont nos pratiques et ce qu'on choisit d'en faire.
Et c'est absolument, absolument. Et du coup, revenir de façon réflexive sur nos pratiques me semble toujours beaucoup plus intéressant que de se laisser embarquer dans les rêves de science-fiction, même s'ils ont des effets importants. De nous faire réfléchir à des grandes questions, je dis pour l'intelligence artificielle aujourd'hui, éthique, morale et politique, parce que c'est évidemment des enjeux qui sont importants. Mais en fait, la réalité des technologies et des promesses qui sont faites ne sont pas tout à fait là derrière, en fait.
Alors, il y a un autre polar qui vient de sortir là au début du mois, de Benjamin Fogel, La transparence selon Irina chez Rivage, qui est une réflexion sur les notions d'identité et de réalité dans un futur où le réseau sera vraiment le lieu de nos vie et de notre épanouissement, avec toute la question à la fois de la vérité sur le web et Internet, du contrôle des données aussi, de nos comportements citoyens. Ça, c'est une question que vous soulevez aussi dans cet ouvrage, celle de l'identité. Qu'est-ce qu'une identité numérique?
Alors, le numérique accompagne pour moi des transformations, des modes d'individuation de nos sociétés. C'est-à-dire qu'il a donné du pouvoir aux individus pour se fabriquer dans des sociétés aussi individualistes dans lesquelles on doit fabriquer sa réputation par rapport à chacun, de construire une identité, des facettes, se sculpter. Et il y a un côté d'entrepreneur de soi dans lequel chacun va, sur ses différents réseaux sociaux, essayer de fabriquer son identité. Et
donc, vous dites que sur le web, l'identité est largement hétérodéterminée.
Alors, elle est aussi hétérodéterminée.
Elle est aussi construite par le regard des autres.
Elle est construite par le regard des autres parce que chaque plateforme fait que... alors ça, vous le savez, enfin, je pense les auditeurs aussi, c'est qu'on publie une photo mais si, de profil, mais si elle n'a pas de like, bah, on en met une autre. Donc on voit bien que en fait ce qu'on attend de notre identité, c'est aussi la reconnaissance que les autres vont lui accorder. Et donc il y a un travail nouveau et qui traverse doucement, secrètement nos sociétés, mais qui est en fait en même temps dans la production des subjectivités contemporaines qui devient complètement essentielle, c'est que nous sommes à la recherche de ces micro-glorioles que l'on peut acquérir, qui sur un réseau professionnel, sur un réseau de sociabilité, sur un réseau, etc. Il y a quelque chose qui se joue autour de la fabrication de l'individu dans lequel le numérique a beaucoup joué. Fabrication de l'individu, mais aussi fabrication de connaissances réflexives sur qui nous sommes, qui nous apprécie, quels sont les messages qui intéressent les autres ou les messages qui n'intéressent pas les autres. Donc il y a une nouvelle manière effectivement de constituer la société qui apparaît avec Internet et qui met en tension l'idée des identités de groupe. Hein, et nos sociétés sont fabriquées sur des catégories de diplômes, d'appartenance à des métiers, à des professions, à des territoires. Et tout d'un coup, on a cette idée que c'est l'individu, et l'individu tout seul, et l'individu tout seul n'a pas toujours les ressources pour le faire, qui doit s'en sortir à produire son identité numérique et à se faire reconnaître par les autres.
Ça, c'est vachement intéressant. Pardon, c'est justement cette idée qu'Internet, est-ce que c'est pour vous un démultiplicateur d'identité? C'est-à-dire que ça va nous permettre d'en expérimenter plusieurs, ou au contraire, plutôt un rétrécisseur d'identité? Pour jouer la carte de l'identification, on va essayer de se résumer, se rassembler en une identité identificatrice par rapport au groupe.
Ben là, vous êtes au cœur des débats les plus actuels. Hein. C'est que moi, je pense qu'au fond, je ne dirais pas l'Internet des pionniers, mais on a beaucoup joué avec cette idée d'avoir des identités multiples qui appartenaient à des plateformes multiples et qui permettaient cette fabrication créative de soi-même, ne pas toujours être soi-même, être un avatar, être plusieurs personnes, explorer sa propre subjectivité. Le risque qui apparaît aujourd'hui avec les grandes plateformes, et puis vous voyez, Facebook vient d'annoncer qu'ils allaient fusionner ensemble la messagerie de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp. Cette idée que tout d'un coup on pourrait avoir, hein, et on a déjà, des grandes plateformes qui elles cherchent plutôt à nous garder, et pour nous garder, du coup, à nous solidifier et à durcir ces identités numériques avec lesquelles nous devons être curieux et pouvoir jouer et continuer à explorer avec les technologies du numérique.
Alors vous racontez aussi toute la dimension participative d'Internet et des réseaux sociaux. Vous rappelez aussi que le web a démocratisé l'espace public, jusqu'ici réservé quand même à des professionnels, à des sachants, que la parole s'est ouverte, l'accès a été dérégulé à la parole publique, et que donc le web a bouleversé la plupart des paramètres de cet espace public tel qu'on le connaissait jusqu'ici. Mais autre question importante, et le temps passe, c'est de savoir ce que le numérique fait déjà ou va faire à la politique. Pour ce faire, je vous propose de vous amener du côté de l'Italie avec la plateforme Rousseau, dont parle l'une de ses pratiquantes. C'était à Public Sénat le mois dernier.
On a choisi par la plateforme Rousseau 329 citoyennes qui aujourd'hui sont élues dans le Parlement italien, dans le Sénat et dans la Chambre des députés. Et sont élues par la plateforme Rousseau, sont nommées. On a choisi, on a discuté, on a voté les programmes politiques qui aujourd'hui, c'est les programmes des gouvernements des Mouvements 5 étoiles en Italie. On a choisi le chef politique Luigi Di Maio par la plateforme Rousseau. Et alors, je ne crois pas qu'en Europe, il y a un parti politique, un mouvement politique ouvert comme le mouvement 5 étoiles qui utilise la démocratie directe comme nous.
Voilà, ça c'était une représentante du mouvement 5 étoiles, pardon, j'ai oublié de le préciser, qui raconte comment donc le mouvement italien s'est aussi organisé grâce à cette plateforme. Plateforme qui a d'ailleurs été proposée par le mouvement 5 étoiles italien aux Gilets jaunes pour s'organiser politiquement. Ça c'est l'avenir de la politique.
C'est une des possibilités qui est offerte par l'infrastructure numérique. On voit bien, donc ça a dérégulé complètement l'espace de production des expressions et d'expressions qui, se coalisant, deviennent des expressions politiques. Ça fait des mouvements sociaux de toutes espèces. Hein, et là, ça peut partir à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Ça peut organiser la mafia. Ça peut organiser MeToo, ça fait des mouvements dans des sens extrêmement variés. Moi, je crois qu'au fond, Internet reste un outil principalement de conversation. Donc, le problème que rencontrent ces nouveaux systèmes, mais très intéressants sous plein d'aspects, d'une nouvelle forme de démocratie plus consultative, et nous, avec les Gilets jaunes, on vient de voir apparaître, là, de façon forte, cet aspect, c'est de repenser les manières de délibérer et d'organiser la discussion en l'élargissant. Le problème d'Internet, c'est le centre. Et ça a toujours été le centre, en fait, dans son histoire. Et donc, dès qu'on a un mouvement qui centralise et qui va agréger des votes, additionner, ou qui va, pour le mouvement 5 étoiles avec BP Griot, c'est un mouvement charismatique en réalité, donc c'est pas un mouvement décentralisé, même s'il utilise beaucoup Internet, on a des risques de reproduire des phénomènes qui, à mon avis, sont politiquement moins intéressants que les procédures délibératives de discussion et d'expression de public qui n'avaient pas les mêmes capacités d'expression précédemment, et on le voit vraiment avec les pages Facebook des Gilets jaunes, des potentialités qui me semblent plus intéressantes que ces dispositifs.
Mais c'est un espace de dérégulation aussi pour vous, à la fois juridique, des pratiques numériques, ce qui se joue là, et c'est un espace, est-ce que c'est aussi un espace qui peut menacer les institutions telles qu'on les connaissait aujourd'hui ? En quoi est-ce que c'est une vraie alternative ?
Une grande partie des débats, effectivement, c'est que ça court-circuite. Ça court-circuite. Ça ne dérégule pas complètement. Hein. Donc là, moi, je serais assez attentif au fait, hein, on le voit par exemple sur le débat fake news, l'air de rien, si les grands médias qui sont tout en haut de l'espace public ne relaient pas les fake news, elles restent dans un espace dérégulé, mais qui est un espace de conversation où elles ont peu de visibilité. Mais si les grands médias se mettent à s'en emparer, elles circulent. Et donc on a constamment ces débats effectivement entre des institutions traditionnelles ou des grandes entreprises fonctionnant avec des modes d'organisation des marchés traditionnels qui sont court-circuités par la possibilité de petits offreurs ou de petits individus ou de petits producteurs d'opinion de temps en temps d'avoir du succès et de faire écho et du coup de créer de la turbulence quand même dans les systèmes traditionnels.
Un dernier point essentiel, celui de la souveraineté numérique. On passe de Black Mirror à la dernière saison plutôt du Bureau des Légendes avec un scénario qui était abordé. Le gouvernement russe qui aimerait mettre en place un Internet indépendant des serveurs étrangers. Un projet de loi a été déposé et les Russes sont sortis, certains d'entre eux, dans la rue pour manifester.
Ils réclament la liberté sur Internet. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Moscou contre un projet de loi visant à doter la Russie d'un Internet indépendant. Une manière de renforcer la sécurité informatique, selon le gouvernement. Une menace pour la liberté, selon ces manifestants.
Une sorte de rideau de fer numérique est en train d'être mise en place, sur le même modèle que le grand firewall de Chine. À tout moment, ils pourront appuyer sur le bouton rouge et ainsi isoler l'Internet russe du reste du monde.
Pour ses détracteurs, cette loi est vue comme une tentative de contrôler les contenus diffusés sur Internet en bloquant l'accès aux sites étrangers.
Alors voilà, c'est des projets qui sont aussi envisagés d'une certaine manière en France, Dominique Cardon, et c'est la vraie question. Que choisir entre la souveraineté nationale avec des libertés individuelles qui sont quand même aussi en partie menacées ou laisser tout cela ouvert, libre, avec le risque de dépendre de puissances étrangères?
Bon, alors je pense que les projets de souveraineté française ne ressemblent pas aux projets russes, qui sont des projets isolationnistes où on coupe l'Internet, on fait un intranet national, hein, la Chine le connaît, on a des situations différentes dans les pays autoritaires de ce type-là. En revanche, il y a un enjeu dans le combat contre la domination qu'exerce aujourd'hui certains États et les GAFA pour remettre de la symétrie dans le système. Et là, dans ces cas-là, effectivement, il faut demander à nos États de nous aider à réguler, notamment sur les aspects de données personnelles ou sur les aspects de fiscalité, de réguler le système mondial, mais pas de s'isoler de ce système mondial. Mais encore une fois, moi, ce que je crois, c'est dans l'esprit des pionniers, c'est que avant de demander à l'État de traiter les problèmes, même si c'est très important de le faire sur les dossiers que j'ai évoqués, il faut aussi que chacun prennent ça en charge dans ses usages et dans ses pratiques. Et donc cette idée de culture numérique, c'est aussi de dire, c'est une manière d'être passif, de dire c'est à l'État de régler le problème. Hein. Alors il faut que l'État demande aux plateformes de payer des impôts, par exemple, mais, évidemment. Mais si on leur demande de venir réguler, d'interdire des contenus, de commencer à avoir des serveurs qui sont propres, ça me semble potentiellement liberticide.
Ça peut valoir aussi d'ailleurs pour les fake news et la question de l'information.
Absolument.
Un grand merci à vous, Dominique Cardon. Culture numérique, alors le champ des sujets abordés est encore plus vaste dans ce livre. Merci en tout cas d'être venu l'évoquer avec nous. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Aurélien Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade et de Antoine Suzarelli à la réalisation aujourd'hui. C'était Sonia avec Théo Gomard. Bel après-midi à tous.